Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à ce café scientifique intitulé « Divorce, on y soit qui mal y pense ». Le divorce est une réalité de notre société qui repose sur des décisions judiciaires et qui a des implications, des conséquences juridiques, sociales et économiques. Sur l'organisation de la famille en particulier, lorsqu'il y a des enfants, en matière d'autorité parentale, d'attribution de la garde des enfants, d'organisation des relations personnelles, en particulier du droit de visite et de la prise en charge des enfants, et puis bien sûr de la détermination des contributions d'entretien pour les enfants et pour l'ex-conjoint. Les conséquences sont variées, mais un des schémas classiques, c'est que la garde et l'autorité parentale est attribuée à la femme, ainsi que corollaire le domicile familial, et puis l'homme souvent se retrouve avec la facture des contributions d'entretien et des pensions alimentaires. C'est une réalité qui existe depuis longtemps et puis dont le politique s'est ému il y a quelques années, plus particulièrement en 2009, lorsque le département fédéral de justice et police, à l'époque dirigé par Mme Widmer-Schlumpf, a mis en consultation une modification du code civil, projet qui a donné lieu le 16 novembre 2011, alors que le département fédéral de justice et police avait passé entre les mains de Mme Simonetta Sommaruga, à un message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale, un message qui a ensuite donné lieu à une modification qui a fait l'objet d'un vote le 21 juin 2013, vote final du Parlement, avec un délai référendaire qui devait échoir le 10 octobre 2013 et une entrée en vigueur de ces modifications prévue au 1er juillet 2014. Ceci dit en passant, l'entrée en vigueur avait été proposée plus tard par les APEA qui voulaient la repousser jusqu'au 1er janvier 2015 et puis la conseillère fédérale a finalement opté pour un compromis. Voilà, donc c'est une situation qui amène un changement fondamental, en particulier en matière d'attribution de l'autorité parentale conjointe par défaut. C'est l'article 298B du Code civil qui prévoit que l'autorité de protection, je cite, de l'enfant institue l'autorité parentale conjointe, à moins que trois petits points et quelques exceptions. À l'article 12 des dispositions finales, alinéas 4 et 5, il est prévu donc que le parent divorcé à qui on aurait retiré au moment du divorce l'autorité parentale aurait la possibilité, avec un effet rétroactif de 5 ans, c'est-à-dire à partir du 21 juin 2013, de récupérer cette autorité parentale qui lui avait été retirée s'il en fait la demande dans le délai de 12 mois à partir de l'entrée en vigueur donc au 1er juillet 2014, ce qui veut dire jusqu'au 30 juin 2015. C'est un changement fondamental qui, disons, prend acte d'une situation qui probablement, est peut-être prémonitoire d'autres mesures en matière de droit matrimonial, le droit de la famille. Et c'est dans ce contexte-là que les cafés scientifiques de l'Université de Neuchâtel ont décidé d'organiser un débat avec des invités qui sont ici pour en discuter avec des compétences particulières. J'ai invité ma collègue, la docteure Sabrina Burga, qui est maître assistante à l'Université de Neuchâtel en droit civil, avocate, et qui a écrit, entre autres, sur le revenu hypothétique du débit rentier et puis les effets du concubinage sur les contributions d'entretien. J'ai invité également Madame la juge Florence Dominique Becker, qui est avocate et présidente du tribunal régional et qui a fait ses études ici à l'université de Neuchâtel. J'ai invité aussi Madame Nicole Bohr, qui est chef de l'Office de l'égalité et de la politique familiale au département de l'éducation et de la famille, ainsi que messieurs Alain Neuenschwander, psychologue qui a fait ses études à l'université de Lausanne, qui a œuvré pendant des années au centre neuchâtelois de psychiatrie au département de l'enfance et de l'adolescence et qui est maintenant dans une pratique privée. Et finalement, M. Patrick Robinson, qui est doctoresse sciences de l'Université d'Édimbourg, spécialiste des gestions des ressources naturelles et du développement équilibré entre hommes et femmes dans le cadre de la coopération, et puis qui est, entre autres, responsable de la coordination romande des organisations paternelles et membre de la commission fédérale des questions familiales. De manière à pouvoir un peu organiser ce débat, je l'ai divisé en deux parties. Une première partie où cinq pairs, disons les intervenants par pair, vont répondre à des questions que je leur ai soumises il y a 3 ou 4 semaines, dans un ordre prédéterminé, pendant lesquels les autres intervenants et le public ne sont pas appelés à intervenir. Ceci nous amènera 45 minutes après le début de ce café scientifique, dans une deuxième partie, sur la base des questions qui auront été présentées par les intervenants, et puis spontanément, le public interviendra, vous aurez la parole. Ma première question s'adresse à la docteure Burga, et le répondant sera la juge Dominique Becker. Ma question est la suivante. Comment expliquer historiquement et sociologiquement la modification récente du Code civil suisse relative à l'autorité parentale? D'où vient-on? Où va-t-on?
Merci. Donc, par rapport à l'évolution historique, on distingue 3 périodes de réglementation, celle qui prévalait avant l'an 2000 et la modification essentielle du droit du divorce, la réglementation actuelle et celle qui prévaudra à partir du 1er juillet 2014. Il faut savoir qu'on vient de loin, entre guillemets, parce qu'avant la modification du Code civil en 2000, l'autorité parentale conjointe était réservée aux couples mariés. Donc il était exclu pour des couples non mariés ou des couples divorcés d'avoir une autorité parentale conjointe. Et on a donc même des arrêts du tribunal fédéral qui datent de la fin des années 90, où le tribunal fédéral avait annulé des décisions de juges de première instance qui avaient essayé d'avancer et qui avaient essayé d'instaurer de l'autorité parentale conjointe. C'est pour ça que le législateur l'interdisait jusqu'à la modification du Code civil en l'an 2000. Et c'est là qu'on a instauré pour la première fois la possibilité d'avoir une autorité parentale conjointe pour les parents non mariés ou les divorcés. Mais cette autorité parentale conjointe, telle qu'elle est prévue aujourd'hui, est soumise à des conditions. Et il faut notamment une convention des parents sur la garde et les modalités de la garde des enfants et sur le problème des contributions d'entretien. Ce qui fait que cette solution n'est pas satisfaisante en pratique dans la mesure où un parent a un droit de veto sur l'autorité parentale conjointe lorsqu'il refuse de signer cette convention. Tout simplement, le tribunal ne peut pas y donner suite, selon le législateur. Alors, on a une réglementation qui est finalement contraire à l'égalité entre hommes et femmes, puisque, en l'occurrence, en pratique, souvent la femme peut mettre son droit de veto à l'autorité parentale conjointe, ce qui a amené effectivement le débat pour modifier cette législation. Et on arrive au résultat qui est prévu pour le 1er juin 2014, où l'autorité parentale conjointe deviendra la règle, à moins que ça ne réponde pas à l'intérêt de l'enfant. Et désormais, il n'y aura plus de conditions particulières pour instaurer l'autorité parentale conjointe. Pour les parents non mariés, il suffira que le père, au moment où il reconnaisse l'enfant à l'état civil, déclare avec la mère qu'ils sont d'accord pour instaurer une autorité parentale conjointe, et cela suffira. Il n'y aura plus besoin de présenter une convention sur le droit de garde, sur l'entretien. Pour les parents divorcés, le juge agira maintenant comme il agit en fait en matière de séparation, c'est-à-dire qu'il ne tranchera pas en principe l'autorité parentale, mais qu'il se contentera de décider de la question du droit de garde après le divorce. Alors, Cette modification a un impact aussi important sur la question du domicile de l'enfant. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que finalement, c'est quoi l'autorité parentale ? C'est le droit de décider, de prendre des décisions importantes relatives à l'enfant. On pense aux décisions en matière de scolarisation, en matière d'éducation religieuse. Mais qu'en est-il du droit de choisir le domicile de l'enfant ? Alors actuellement, jusqu'à la fin du mois de juin, le droit de choisir le domicile de l'enfant, c'est une composante du droit de garde. Et cela va changer au 1er juillet. La question du domicile de l'enfant sera un attribut de l'autorité parentale. C'est-à-dire que les parents devront être d'accord ensemble s'il y a une modification du domicile de l'enfant. Donc ça, c'est un élément important et qui finalement rendra peut-être un meilleur statut, si on peut dire, ou une meilleure égalité, parce que souvent, là je prends le rôle d'avocate deux minutes, en pratique on voit que le problème est plus lié au droit de garde, au domicile de l'enfant finalement, qu'à l'autorité parentale.
Je donne la parole à Madame Dominique Becker.
Bien, je vous remercie, je n'ai pas grand-chose à ajouter, tout a été dit. Simplement, au niveau de la pratique, ce que l'on peut constater, c'est que depuis plusieurs années, nous avons très souvent des accords amiables avec une autorité parentale conjointe. Je relève le message du Conseil fédéral. En 2010, 55% des divorces à Neuchâtel ont avalisé une autorité parentale conjointe. Depuis quelques mois, les avocats à Neuchâtel nous soumettent des conventions qui d'ores et déjà prévoient l'autorité parentale conjointe, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, les justiciables et leurs avocats ont déjà fait entrer la loi en vigueur dans le canton de Neuchâtel, et il y a un certain optimisme, il faut bien le dire. Voilà, je n'avais rien à ajouter pour le surplus.
Merci. Peut-être juste pour, puisque vous avez la parole, où va-t-on ? Est-ce que cette mesure en matière d'autorité parentale va être continuée par d'autres mesures dans le domaine matrimonial ? On parle en particulier d'une révision du droit des contributions d'entretien.
Alors, elle est en cours. Elle a été, le message du Conseil fédéral a été déposé le 29 novembre, en même temps qu'il annonçait, au fond, l'entrée en vigueur de la loi révisée sur l'autorité parentale au 1er juillet. Ce message a effectivement été rendu public le 29 novembre. Maintenant, il appartient aux chambres fédérales, bien sûr, de se saisir du projet. J'imagine qu'avant quelques années, nous n'aurons aucune législation encore en vigueur sur les contributions d'entretien. Il faudra être patient.
Merci beaucoup. Nous passons à la paire numéro 2, Madame Nicole Bohr et Monsieur Alain Neuenschwander, garde et autorité parentale attribuée la plupart du temps à la mère, éjection du père du domicile conjugal, pension alimentaire plus ou moins généreuse pour tout le monde aux frais du père, etc. Où est l'égalité ? Quelle image donne-t-on du père aux enfants et à la société ? Nicole Bohr.
C'est beaucoup de questions. Bonsoir, c'est beaucoup de questions en même temps. Ce qu'il faut peut-être tout d'abord dire, c'est que, évidemment, nous sommes encore dans une société où il y a une répartition traditionnelle des rôles, et puis qu'au moment du divorce, eh bien, on se divorce comme on a vécu marié. Donc pourquoi est-ce que l'autorité parentale, enfin plutôt la garde, est presque systématiquement attribuée à la mère ? Eh bien c'est parce que très souvent c'est la mère qui a soit diminué son taux d'activité, soit a cessé son activité professionnelle et donc s'est occupée des enfants. Donc au moment du divorce, eh bien on estime que c'est elle qui va aussi poursuivre la garde et poursuivre le ce qu'on appelle le care, hein, dans la langue un peu sociologique, à l'égard des enfants. Et puis pour ce faire, je peux vous donner qu'un chiffre, c'est qu'en Suisse, 61% des mères travaillent à temps partiel, alors que seulement 8% des pères travaillent à temps partiel. Et encore, il faut encore voir pourquoi ils travaillent à temps partiel, si c'est pour suivre des formations. On sait que ce n'est pas toujours chez les hommes, c'est pas toujours la raison principale n'est pas toujours le care aux enfants, donc le soin des enfants et les tâches domestiques, mais souvent aussi des formations, du sport, des choses comme ça. Chez les mères, c'est quand même très majoritairement pour des raisons de prise en charge des enfants. Donc ça, c'est le système traditionnel. Et puis nous sommes dans une société qui a encore une répartition traditionnelle des rôles. Il n'y a qu'à penser ou à la dernière votation qu'on a eue, notamment sur, je sais, vous vous souvenez, l'article constitutionnel sur que voulait introduire l'UDC, où on voulait en tout cas pas que les cantons soient obligés de fournir de l'accueil aux enfants. Eh bien, tout ça va ensemble. S'il n'y a pas de conciliation famille-travail, s'il n'y a pas la possibilité pour une pour des parents de travailler en même temps qu'avoir des enfants et prendre en charge des enfants, eh bien, on va se retrouver avec une situation très inégalitaire, puisque la plupart du temps, c'est donc la mère qui va effectivement s'occuper des enfants. Et puis, au moment du divorce, eh bien, voilà, les pères ne peuvent pas tout à coup revendiquer le fait que, ben non, ils veulent aussi s'occuper des enfants. Eh bien, ça ne passe pas si bien, d'autant plus que souvent, économiquement, eh bien, la mère n'a pas forcément la possibilité non plus de la prise en charge de toute la famille. Donc, si le père décide au moment du divorce de diminuer son taux d'activité, ben, ça commence à être un peu compliqué. Et puis, effectivement, ils ont perdu parce que pendant le mariage, il aurait fallu peut-être pendant le mariage y réfléchir et mieux répartir les tâches d'éducation et les tâches domestiques. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut dire, parce que c'est vrai que 9 fois sur 10, en tout cas, c'est le chiffre que j'ai en tête, c'est effectivement attribué à la mère. La garde est attribuée à la mère, pas l'autorité parentale, il ne faut effectivement pas confondre. Donc, effectivement, on est toujours dans ce schéma-là. Qu'est-ce qu'il faut dire encore ? Eh bien, c'est que l'inégalité, elle existe aussi économiquement, et c'est bien pour ça qu'ensuite, il y a aussi la possibilité, pas toujours, mais quelquefois, je ne sais pas d'ailleurs dans combien de pourcentage, que la mère ait une pension, parce que aussi dans les nouvelles, dans le projet de Madame Somaruga, elle a très clairement dit qu'il fallait tenir en compte, justement, il fallait prendre en compte ce qu'on appelle en allemand le Kinderbetreuung, donc il fallait vraiment tenir en compte le fait que la mère, si elle doit s'occuper des enfants, elle a besoin de temps, et puis que ce temps, eh bien, elle ne peut pas le passer à avoir un salaire, donc on va devoir peut-être l'aider pour qu'elle puisse continuer à vivre. Et puis ensuite, les pensions sont calculées en fonction du revenu du père, la plupart du temps. Elles sont assez... Alors, il n'y a pas de règle pour tous les cantons, mais quand même, il y a plus ou moins une échelle. C'est 10 à 15% pour un enfant du salaire du père, 20 à 25% pour deux enfants, et puis 30 à 33% pour quand il y a trois enfants. Et puis ensuite, effectivement, il y a peut-être encore une pension pour la mère, mais pas dans tous les cas. Et puis ça, c'est une règle voilà, qui est un peu universelle. On essaie de faire en sorte que les enfants vivent à peu près de la même manière. Et c'est évidemment pas le cas, parce que quand il y a deux ménages, évidemment, il y a un appauvrissement. Mais qu'on essaie de faire en sorte que les enfants vivent à peu près sur le même niveau économique après le divorce qu'avant. Et ça, ce sont donc les règles en vigueur. C'est vrai que, cela dit, je pense, je vais finir par cette petite phrase qu'on dit souvent avec mes collègues des autres cantons qui s'occupent d'égalité, c'est qu'en fait, au moment du divorce, eh bien, les femmes se rendent compte qu'elles n'ont pas assez investi dans leur carrière professionnelle et sur le plan économique. Et puis les hommes se rendent compte qu'ils n'ont pas assez investi sur le plan familial et dans les liens avec leurs enfants. Et puis que tous les deux se retrouvent lésés, soit dans le domaine familial pour les pères, et je pense qu'il faut l'accepter, et puis, enfin, il faut le reconnaître, je vais dire. Et puis les femmes se retrouvent lésées au niveau économique parce que, eh bien, et au niveau de leur carrière professionnelle, parce qu'elles se rendent compte qu'elles ont consacré quand même une bonne partie de leur vie antérieure à s'occuper des enfants, et donc elles n'ont pas forcément pu déployer tout leur potentiel et donc se réaliser professionnellement.
Merci. Alain Neuenschwander, quelle image ?
Ben, oui. C'est vrai que nous avons entendu jusqu'à maintenant des choses très, très juridiques, hein, très, très précises comme ça. Mais l'image, la représentation au niveau de l'être humain, de l'homme ou de la femme par rapport à ce genre de choses, c'est forcément une image d'un homme très mauvais quand même et qui doit payer. Hein. Il y a quand même cet aspect-là qui ressort en premier. Où est l'égalité ? Je dirais que l'égalité mathématique, en tout cas, n'existe pas. Si 9 fois sur 10, la garde est attribuée à la mère. Après, ce sont des questions extrêmement intéressantes au niveau psychologique et plus particulièrement au niveau psychanalytique. Qu'est-ce que veut dire l'égalité ? Moi, je parlerais plutôt de l'égalité du respect. Je pense que l'homme, autant que la femme et vice-versa, ont droit au respect par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à leurs enfants. Après, un homme, à mon avis, et une femme sont égaux au niveau des droits. Au niveau des responsabilités, au niveau des devoirs, mais ne sont pas égaux au sens strict du terme. Parce qu'autrement, il n'y aurait plus de sexualité, il n'y aurait plus de sexe. Hein. Donc, quand on me dit qu'une femme est égale à un homme au sens strict, je ne peux pas dire oui. Au niveau de l'image, au niveau de la société, ça m'inquiète aussi, parce que la société peut se dire soit c'est injuste, ou soit... certaines personnes qui peuvent être fragiles au niveau psychologique, donc qui ont une certaine psychopathologie, peuvent penser que la toute-puissance en l'occurrence à ce moment-là maternelle, des fois, peut être cautionnée par la justice, peut être cautionnée par le tribunal. Donc la toute-puissance peut devenir démocratique, en fin de compte, ce qui est une antinomie complète, quoi. Donc voilà ce que je pourrais dire.
Merci beaucoup. Je passe à la troisième question. Elle est adressée à Madame Florence Dominique Becker avec le répondant Patrick Robinson. Elle concerne le droit de visite. L'exercice du droit de visite est le canal par lequel parents et enfants ou parents et enfants continuent de se parler. Lorsque cet exercice est entravé par le parent gardien ou par la volonté de l'enfant, quelles sont les mesures prises par l'autorité judiciaire, dans quel délai et avec quelles conséquences ?
Bien, avant de répondre à la question, il me semble nécessaire de poser le décor. L'hypothèse, c'est donc que la vie commune est suspendue, les soins et l'éducation de l'enfant sont en principe assumés par le parent titulaire de la garde, c'est-à-dire le parent avec lequel l'enfant réside habituellement. Le droit de visite, c'est le droit pour l'autre parent, celui qui n'est pas le parent gardien, d'entretenir des relations personnelles avec ses enfants. Comment ce droit est-il fixé ? Eh bien, dans la majeure partie des cas, les tribunaux sont saisis de requêtes amiables. C'est-à-dire que la convention est prête, elle est déposée, on règle le droit de garde ou l'attribution de la garde, et les relations personnelles, le droit de visite, sont réglées également. Pour être plus précis, je dirais que sur les 600 procédures matrimoniales que nous avons dans le canton environ par année, 400 débutent par le dépôt d'une requête commune en divorce. Les gens se sont entendus, grâce à leurs avocats, il faut bien le dire, ils se sont entendus, et le tribunal, finalement, ne fait que contrôler que les conditions légales sont réalisées. Pour le tiers restant, le juge va, au fond, appointer ou fixer une audience de conciliation, et à cette audience de conciliation, dans la majeure partie des cas, il parvient à un accord. Alors parfois, ce sont des audiences relativement longues qui peuvent durer quelques heures, mais en général, il parvient à un accord grâce à la bonne volonté des parties et de leurs avocats. Quand le juge doit néanmoins, malgré tout, trancher, eh bien, il va le faire en fonction de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant. Ce sont les relations personnelles entre les parents et les enfants, la disponibilité de chacun des parents, la capacité éducative de ces parents-là. Donc nous allons voir l'ensemble de ces éléments, l'ensemble des éléments du dossier. Et la solution qui est choisie, c'est celle qui assure au mieux à l'enfant des relations stables nécessaires à un développement harmonieux. Par exemple, ça a été évoqué, si la mère ne travaille pas ou travaille à temps partiel et le père travaille à 100% à Zurich, il est évident que la mère a davantage de disponibilité, et ça n'est pas du tout pour prétériter le père que nous prenons ces décisions, c'est bien parce que la mère a du temps à consacrer à ses enfants. Et c'est exactement de la même manière que nous allons fixer les relations personnelles si les parties ne se sont pas entendues. Nous allons voir quelle est la disponibilité du père, par hypothèse, et notamment également, et c'est important, les relations personnelles qu'il entretient avec ses enfants. Et c'est le lieu de dire précisément que le juge doit tenir compte de l'intérêt des enfants, pour autant que ces enfants soient en âge de donner une opinion qui soit éclairée. Le tribunal fédéral nous dit 12 ans, dès 12 ans, un enfant est capable de ne pas changer d'avis tous les 48 heures et est capable de dire « oui, j'aimerais aller chez mon père, j'aimerais habiter avec ma mère, j'aimerais voir mon père deux fois par semaine ou trois fois par semaine, etc. » Et véritablement, les juges en tiennent compte. Voilà pour les principes. J'entends M. Robinson soupirer à côté de moi. Vous rétorquerez tout à l'heure, M. Robinson. Voilà pour les principes. Ensuite, ce qu'il convient, une fois que les principes sont fixés, eh bien, effectivement, c'est de les exécuter. Et la question de M. Aubert, c'était celle-là. Que font les tribunaux lorsque les règles finalement fixées, amiablement ou par le juge du divorce, ne sont pas respectées ? Eh bien là, je dois bien dire que le problème est de taille, qu'on ne saurait prendre la chose à la légère. Il est très important pour le développement d'un enfant que cet enfant puisse voir ses deux parents, et on ne saurait jamais assez insister sur la question. Mais il est vrai que nous ne disposons pas d'un arsenal juridique vraiment efficace, et je dois bien l'admettre, et nous faisons ce que nous pouvons. Et imaginez bien que nous ne pouvons pas envoyer la police chercher les enfants tous les 15 jours chez leur père, uniquement parce que la première des questions, c'est le traumatisme que ça engendrerait pour ces enfants. Donc c'est une solution qui est évidemment à écarter. Le juge ne va pas pour autant rester les bras ballants. Ce qu'il va faire, c'est d'abord convoquer les parties. Il va les convoquer, leur demander pour quel motif, finalement, on n'admet pas sa décision, pourquoi on ne l'exécute point, pourquoi la mère, parce que souvent, effectivement, c'est plutôt la mère qui va s'opposer à cela, puisqu'elle a le droit de garde. Donc, pourquoi la mère s'oppose-t-elle à ce droit de visite ? Et on va tenter, tant bien que mal, de convaincre les parties qu'il faut maintenir ces relations personnelles, et on va voir dans quelle mesure on peut mettre les choses un peu différemment que ce qui avait été prévu dans le jugement de divorce pour agréer à chacun. Si le juge, malgré tout, n'y arrive pas et n'est pas assez persuasif, il peut toujours brandir la menace de l'article 292 du Code pénal, c'est-à-dire menacer le parent gardien du prononcé d'une amende. Je ne suis pas sûre que ça soit très efficace, mais enfin, c'est une possibilité qui existe. Une possibilité, en revanche, qui me paraît très efficace, c'est la médiation. La médiation, c'est le fait de dire aux parties, eh bien, là, je me déclare impuissant, je suggère que vous alliez voir un médiateur et que vous trouviez une solution en vous mettant autour d'une table et en discutant avec l'aide de ce médiateur des solutions que vous pouvez envisager. Le juge en Suisse n'a pas l'habitude de l'imposer, mais il peut le faire s'il le souhaite, il peut le faire. Le tribunal fédéral l'a autorisé dans une ou deux affaires, donc on peut imposer la médiation. C'est une solution qui généralement est couronnée de succès. C'est d'ailleurs pour cette raison que de nombreux pays européens, en particulier l'Allemagne, ont imposé la médiation obligatoire en matière matrimoniale. Une autre possibilité, ça serait pour le juge de nommer un curateur qui, au fond, se chargera d'aménager tant bien que mal ses relations personnelles, ce droit de visite. Mais là encore, si les parents sont récalcitrants, ça va être extrêmement compliqué. La dernière solution que nous voyons, mais que nous n'appliquons que très rarement, c'est le retrait de la garde. Alors, il faut savoir qu'on peut effectivement retirer aux parents gardiens la garde pour autant qu'il empêche l'exercice du droit de visite. Cela étant, il faut des circonstances bien particulières. Donc, ce n'est pas simplement parce que la mère dit « Ah non, je n'ai pas envie que mes enfants aillent chez le père » qu'on va pouvoir retirer la garde à cette mère. Il faudra qu'il y ait véritablement, et ça sera en général attesté par des spécialistes, il faut que l'enfant soit en danger. En danger parce qu'il subit une telle pression qu'en réalité, c'est mauvais pour sa santé mentale. Voilà, pour le reste, je dirais, bon, il a déjà été évoqué le problème du déménagement, donc je ne reviendrai pas là-dessus, mais ça sera une règle, effectivement, qui aura un certain impact, certainement. J'ai dressé rapidement les contours du droit de visite des relations personnelles. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Patrick Robinson.
Merci. Je suis très intéressé par vos statistiques disant que sur les 600 parents de divorce, je ne suis pas sûr si ça inclut séparation, mais 400 sont sous requête commune, à sous-entendre qu'il y a un accord entre les parents et que des 200 restants, en fait, une majorité sont traités au tribunal à travers une conciliation et que les juges doivent trancher seulement sur une petite proportion. Et je dis pourquoi je suis surpris. Je crois que vous vous référez à l'article 111 du code civil ou code de procédure, qui est quand les parents arrivent à se mettre d'accord et arrivent au tribunal avec une requête commune. Quand on regarde les statistiques de l'Office de protection de l'enfance et leur volume de travail, c'est ce que cet office dit, que plus de la moitié de leur cas par an, c'est justement de traiter, essayer de résoudre les conflits autour de ce non-respect du droit de visite. Alors, ce n'est pas le moment d'entrer dans le pourquoi, etc., mais à mon sens, il y a déjà une contradiction quelque part. Maintenant, quand à qu'est-ce que le parent non-gardien peut faire pour faire respecter ce droit de visite qui a été établi par une décision de justice, nous savons, par expérience, c'est probablement le cas que nous avons plutôt des papas et certaines mamans qui viennent dans nos mouvements parce que ce sont des cas conflictuels, voire très conflictuels, mais très peu peut être fait. Vous avez parlé de l'article 292 du Code pénal qui peut être invoqué dans une ordonnance, soit le non-respect d'une décision d'autorité. Cet article est inclus dans les décisions de divorce et les ordonnances extrêmement rarement dans le canton. Et pour que, alors, si c'est mentionné, le parent non gardien peut déposer plainte pénale, ensuite il y aura des longues procédures, ça peut aller des mois, et si les enfants sont petits et ne voient plus le parent non gardien, pendant des mois, il peut avoir une aliénation qui s'impose, etc. Donc, et nous avions déposé en 2003 une pétition au Grand Conseil demandant que l'article 292 soit systématiquement mis dans les ordonnances pour introduire un effet dissuasif. C'est parti dans les tiroirs et la poussière. Je dois dire que l'expérience avec la police, et vous avez dit qu'on n'enverrait pas la police, mais il y a l'article 220, par contre, où si le parent non gardien ne rend pas les enfants aux parents gardiens, l'article 220 peut être activé. Nous avons une expérience très intéressante que j'ai vue moi-même dans le canton de Vaud, où une maman refusait systématiquement de rendre les enfants aux parents non gardiens le vendredi soir. La juge était tellement furieuse, parce qu'elle a que c'était des requêtes et requêtes, elle a mis article 292, note à la police, veuillez intervenir si le père le demande, et copier à la police. Quelle était la réaction des enfants? Je les ai vus, ils avaient entre 7 et 9 ans. Ça a été pour eux c'était un soulagement. Oui, la police est intervenue, mais elle a fait appliquer quelque chose. Et pour finir, ce dont eux, ils s'attendaient, c'était à voir l'autre papa. Il y avait une certaine régularité dans ça. Et pour eux, ça n'a pas du tout été dramatique. Maintenant, je pense que selon les cas qu'on voit, c'est très malheureux, mais il n'y a pas d'effet dissuasif. J'estime que c'est à l'État à prendre ses responsabilités et à faire en sorte d'introduire un effet dissuasif. Que faire dans l'avenir? Widmer Schlumpf, en lien avec l'introduction de l'autorité parentale conjointe, avait mis dans son projet l'article 220 du Code pénal pour le parent gardien et le parent non gardien, donc qui ne respectait pas, c'est plus fort. Mais depuis que Mme Somoruga est venue à la tête de ce département, l'article 220 n'est applicable qu'aux parents non gardiens, ce n'est que lui qui est puni s'il ne donne pas l'enfant et pas dans le sens inverse.
Merci. Oui, on reviendra peut-être sur la question d'un droit qui n'a pas de sanction, mais je passe à la quatrième question qui est liée à la troisième question. Il s'agit de l'aliénation parentale. De par sa proximité par rapport à l'enfant, le parent gardien a un poids supérieur à l'autre. Il ou elle peut en profiter pour influencer les représentations que l'enfant aura de la situation et des personnes impliquées, en particulier de l'autre parent. Quels sont les effets sur l'enfant à court, moyen et long terme? Quelle est l'attitude de l'autorité judiciaire à l'égard de cette situation lorsqu'elle se présente? Monsieur Neuenschwander.
Alors, les effets possibles, on pourrait dire, sont multiples. Moi, je verrais qu'au début, quand un des deux parents commence à beaucoup critiquer l'autre et a le pouvoir de le faire aussi, que l'enfant va commencer par ressentir de la colère contre l'autre parent, parce qu'il va croire, la personne qui s'occupe le plus de lui. Puis forcément, ça va amener à ce qu'on pourrait dire un conflit de loyauté, parce que, enfin, j'y reviendrai un petit peu par la suite, mais un enfant, il est issu de deux personnes, pas juste d'une personne. Après, il va commencer d'apprendre un peu à mentir ou à cacher certaines choses, à ne pas dire, parce que forcément, qu'il y a des choses qui peuvent déplaire à l'un ou amener des problèmes. Et puis, je dirais, à long terme, je verrais deux effets possibles. Soit alors un retournement complet de situation à un moment donné, où l'enfant devenu adolescent et adulte se rebelle contre le parent qui s'en a occupé beaucoup et qui lui a raconté, entre guillemets, des histoires. Ou soit alors une chose qui est, à mon avis, beaucoup plus grave, qui est une sorte de psychotisation de l'enfant devenu adulte sur le parent qui l'a influencé, et où il va rester dans une sorte de dyade avec cette personne-là, et puis ça peut amener à des graves troubles psychopathologiques, ça, alors. Donc voilà ce que je verrais vraiment a priori. Mais j'aimerais un petit peu étayer mes hypothèses par l'aspect du tiers, parce que moi, il me semble qu'au centre de toute cette problématique, il y a le tiers. L'enfant, comme j'ai dit avant, il est issu d'un homme et d'une femme. Et on sait, au niveau psychologique de la première enfance, que l'enfant va se développer au départ par fusion avec la mère, et progressivement le père va venir comme un tiers s'insinuer dans cette dyade pour faire prendre la distance, pour commencer à réfléchir autrement. Alors, en psychanalyse, on parle de plein de termes, hein, de complexe d'Œdipe, de complexe de castration, ce genre de choses-là. Mais c'est vraiment cette notion de tiers qui est hyper importante. Et la mère, quand elle est, je dirais, bien dans sa peau, quand elle a un équilibre moyen, psychique, parce qu'on est tous un peu malades quand même, hein, je dirais qu'elle a ce tiers déjà en elle. Et le père aussi l'a en lui. Mais la mère, c'est vrai qu'ayant porté l'enfant en gestation, il y a une sorte d'incarnation de la mère avec son enfant qui vont faire que le lien sera hyper fort, hyper fort. Et c'est ce lien-là, quand même, qui va, à mon avis, insinuer à l'enfant sa première personnalité, ses premières identifications. Et on dit toujours que la mère, c'est quand même la personne la plus importante, à la condition qu'elle ne soit pas parthénogénétique. Si on a affaire à une mère qui a le fantasme qu'elle peut avoir des enfants sans homme, puis qu'elle utilise uniquement la semence, comme on voit certaines fois, c'est extrêmement grave pour l'enfant. C'est un facteur psychotisant, ça. Parce que tout fonctionne, dans nos pays, en tout cas démocratiques, sur l'aspect de la triangulation œdipienne, sur l'aspect du tiers. C'est-à-dire que toute la loi est basée sur le fait de prendre la distance. Le juge, il va entendre les deux parties, puis il va prendre la distance et il va rendre après un verdict, comme ça. Hein ? Et dans les pays dictatoriaux, ben, il n'y a peut-être pas ça, justement. Et là, on est dans une sorte de relation plus talionique sur un modèle, en psychanalyse, on dirait plus prégénital, c'est-à-dire entre la mère et l'enfant, sans le père, comme ça. Donc moi, je dirais que le tiers, il est de toute façon, chez les gens plus ou moins bien portants, à l'intérieur, mais que la mère, elle aura plus tendance quand même à partir dans des histoires de liens extrêmement forts avec son enfant, sûrement blessée par l'histoire du divorce, sûrement blessée par la relation qui n'a pas fonctionné avec son ex-mari. Et puis, là, l'homme doit vraiment être entendu au sens, pas seulement du respect qu'on peut avoir pour lui, mais surtout, en ce qui nous concerne ce soir, par rapport à l'enfant, dans le sens où il doit être absolument reconnu comme tiers intervenant dans son équilibre psychique. Et puis, à ce moment-là, je pense que ça ne devrait pas trop poser de problème. Il y a cet aspect médiation dont vous avez parlé avant. Il y a cet aspect éventuellement de nommer un curateur quand les situations sont difficiles. Ça, je trouve des idées excellentes parce que ça vient forcément tiercéiser la relation et mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Et puis jusqu'à ce que les parents deviennent un peu raisonnables et puis jusqu'à ce qu'ils puissent commencer un minimum à s'entendre. Parce qu'on dit toujours en psychologie, vous avez le droit de ne pas vous entendre au niveau du couple, mais vos enfants n'ont rien à voir là-dedans. Donc c'est à vous quand même en tant que parent de vous entendre suffisamment pour élever vos enfants, même si vous n'êtes plus ensemble. Malheureusement, dans les situations difficiles, ce n'est pas comme ça. Maintenant, j'ai envie de dire aussi qu'au niveau de ma consultation, moi je vois quand même beaucoup de gens qui, malgré des divorces difficiles, ont ce tiers à l'intérieur d'eux, on le sent. Et malgré qu'ils sont très fâchés contre l'homme ou la femme qui les embête des fois très très fortement, ils ont quand même ce respect. Ils se disent quand même, mais j'aimerais quand même pas trop l'accabler, j'aimerais quand même pas trop, il faudrait quand même faire attention. Ça, c'est très bon signe quand même. Voilà, j'ai peut-être...
Merci beaucoup. Votre réponse, docteur.
Oui, merci. C'est vrai que par rapport à la tendance potentielle qu'un parent peut avoir d'influencer de manière consciente ou inconsciente l'enfant, elle existe notamment, comme l'a expliqué la juge, parce que l'enfant capable de discernement a un poids dans la procédure de divorce. Par rapport aux décisions des tribunaux qui étaient rendues, il faut savoir que le tribunal fédéral, depuis 2000, a fait état une fois d'un cas du syndrome d'aliénation parentale où l'expertise avait abouti à la conclusion qu'il y avait une aliénation parentale et c'était pourquoi les enfants refusaient le droit de visite du père. Et dans ce cas-là, le juge avait été amené à imposer en fait un traitement psychiatrique aux enfants en vue de remédier à ce syndrome en soi pour ensuite établir des relations personnelles, donc fondées sur une mesure que le juge peut imposer au sens de l'article 307 du Code civil comme traitement psychique. Par contre, c'est vrai qu'après, si on parle d'aliénation parentale, c'est une question délicate parce qu'elle n'est pas reconnue parmi les spécialistes de neuropsychiatrie, pédopsychiatrie, elle fait débat. Et ce qui est important, à mon avis, c'est de ne pas utiliser cette notion d'aliénation parentale pour toutes les situations relationnelles difficiles entre un parent et un enfant. Mais il faut rester, ce serait une maladie si elle était reconnue. Et là, on part dans des cas particuliers. En revanche, quand le parent... au moment de la séparation ou du divorce, quand le parent gardien passe énormément de temps avec les enfants, il faut voir aussi que cela reflète une situation qui prévalait en principe au moment de la vie commune, effectivement. Parce que, comme l'a rappelé la juge Dominique Becker, le critère d'attribution du droit de garde pour une autorité, ça va être de regarder les capacités éducatives des parents et leur disponibilité. Et c'est là qu'on arrive à un système, comme l'ont expliqué mes précédentes intervenantes, c'est qu'on arrive à un système où c'est la femme qui est disponible à la naissance des enfants et c'est la femme qui va être plus disponible au moment de la séparation et du divorce. Et c'est ce critère-là que les juristes ont choisi d'appliquer et que le tribunal applique, alors présupposer que ça correspond au bien-être de l'enfant de conserver la situation qui prévalait pendant la vie commune.
Merci beaucoup. Je passe à la cinquième paire. Nous avons parlé d'aspects juridiques, d'aspects sociaux. J'aimerais passer à l'aspect économique du divorce, en particulier en matière de fiscalité. Le parent gardien bénéficie en principe de déduction fiscale pour les enfants sous sa garde. Ce n'est pas le cas du débit rentier, en particulier lorsque les enfants deviennent majeurs et que les rentes continuent d'être dues jusqu'à la fin d'une formation régulière, même au-delà de 25 ans. Et ma question, c'est de savoir comment les débits rentiers peuvent-ils faire face à une telle situation ? Et puis, qu'en est-il des débits rentiers qui arrivent à l'âge de la retraite ? Ma question s'adresse à Patrick Robinson.
À la première question, comment les débits rentiers peuvent-ils faire face à une telle situation ? Ben c'est subir. Je vais peut-être dire quelque chose de plus après. Et qu'en est-il des débits rentiers qui arrivent à la retraite, à l'âge de la retraite ? Alors là, il y a une combine. mais je ne suis pas sûr que c'est économiquement viable pour la, ou positif pour la société. Alors, comment peuvent-ils faire face à une telle situation ? Je dis subir, parce qu'il n'y a aucune manière de se sortir de cette situation. Nous avons plusieurs, et c'est évident, il y a de plus en plus de pères qui arrivent maintenant à l'âge de la retraite, qui ont des enfants en études, qui sont majeurs, et ça va augmenter. Et nous en avons quelques-uns dans le canton qui, chaque année, font recours au service des contributions pour dire « mais c'est totalement injuste ». Comment se fait-il que les montants que des enfants mineurs aient un certain montant, que ce soit évidemment déductible des impôts, et ça c'est introduit en fait dans le calcul des pensions alimentaires, parce qu'il y aura une réduction des impôts, et arriver tout d'un coup à l'âge de 18 ans, le parent débiteur doit continuer de payer ses pensions aux enfants et tout d'un coup ne peut plus les déduire. Alors que se passe-t-il ? Il paye plus, son seuil augmente. Enfin, il y a trois différentes raisons pour lesquelles il paye plus. Alors que ses enfants en études, peut-être et probablement aurait besoin de plus d'argent. Alors tout le monde est perdant. La réponse du service des contributions est dit, eh bien, vous ne pouvez rien faire, c'est une question de législation fédérale, vous pouvez faire recours si vous voulez. Alors, personne à ma connaissance, des gens qu'on connaît, n'ont fait recours, parce qu'il y a eu plusieurs motions depuis 2005, 2006, il y a eu Bruno Frick, il y a eu deux parlementaires jurassiens, il y a eu Guy Parmelin, il y en a eu d'autres, qui ont déposé des motions, qui ont interpellé le Conseil fédéral et qui ont dit oui, mais bon, etc. Mais il y aura une révision de la loi sur la fiscalité des familles qui est en cours en ce moment. Hein, et il faut avoir une approche globale, nous allons mettre ça là-dedans. Mais quand on a vu l'avant-projet sur la modification de la fiscalité des familles, cet objet n'était pas là-dedans. Et nous avons pris position, évidemment, avec nos plusieurs autres organisations. Mais ce que nous avons aussi fait, c'est d'encourager les bureaux de légalité, n'est-ce pas, à prendre position. Et l'État de Neuchâtel, dans sa position cantonale, qui était en partie rédigé, je crois, par le service des contributions, et peut-être vous. Mais malheureusement, dans ces prises de position, nous n'avons rien vu sur ce point. Donc on est un peu désespéré. Quand on vient à l'âge de la retraite, alors il y a peut-être quelqu'un dans l'audience, ou peut-être une ou deux, qui sont dans cette situation. Alors là, il y a une combine. Parce que si vous arrivez à l'âge de la retraite, enfin, ce n'est pas une combine, c'est tout à fait légal, c'est l'AVS, et si on prend la retraite avant 65 ans, je crois que ça s'appelle le pont AVS, donc le pont AVS, c'est la caisse de pension, qui paye le surplus des contributions qui doivent être payées, et elles peuvent en fait payer plus, un montant plus élevé que le montant qui avait été décidé dans la convention, la décision de divorce. Alors ça devient intéressant. Moi, je n'ai pas fait calcul parce que j'ai encore 5 ans avant d'y arriver, mais il me semble que c'est possible que, ben, pourquoi pas prendre la retraite un petit peu avant, hein, et puis laisser les caisses de pension payer. Mais ça, c'est peut-être que quelqu'un dans l'audience pourra entrer dans les détails. Je vous remercie.
Merci, Nicole Bohr.
Dernier petit point. Peut-être que dans tout ça, je lance une idée peut-être pour la suite. Beaucoup d'éléments de la discussion, que ce soit de l'aspect psychologique, etc., médiation, conciliation, famille-travail, je lance l'idée, parce qu'elle n'a pas été posée, que peut-être que la garde partagée serait une solution très intéressante pour régler, pas tous, mais beaucoup des problèmes dont on a parlé ce soir. Merci.
C'est moi qui le prends. Alors, moi, j'aimerais ajouter que peut-être quand un père arrive à la retraite, eh bien, c'est comme dans toutes les situations où sa situation économique varie, il peut demander à recalculer les pensions. J'imagine que ça, il faut repasser devant un tribunal, sans doute, mais enfin, il peut aussi, sa situation varie, évidemment, puisqu'on calcule les pensions en fonction de son revenu, j'imagine que ça doit être possible. Donc ça, c'est le cas des pères qui arrivent à la retraite, je pense que ça doit pouvoir être réglé. Maintenant, c'est vrai que c'est, et je considère moi aussi, et je ne suis pas la seule, que c'est assez injuste que le père paye, il peut déduire les pensions des enfants jusqu'à l'âge adulte, et puis tout à coup, oups, voilà, il ne peut plus, alors qu'il est obligé de les payer. Il n'a pas le choix, s'il ne les paye pas, il va se retrouver devant un tribunal. Donc effectivement, c'est injuste. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On ne peut pas non plus... Auparavant, c'est la mère qui est justement fiscalisée sur les pensions qu'elle reçoit pour les enfants mineurs, et on fiscalise en tout cas jamais deux fois les mêmes montants. Donc, qui devrait payer ces impôts ? À partir du moment où le père peut aussi donne ses pensions aux enfants majeurs, parce que ce n'est plus la mère qui les reçoit, en principe, c'est quand même les enfants qui les reçoivent, ce seraient les enfants qui devraient être fiscalisés. Et en l'occurrence, vous voyez bien ce qui se passe, c'est qu'on perdrait beaucoup d'argent parce que ces enfants ne payeraient pas d'impôts parce qu'ils n'auraient pas assez pour être fiscalisés. Donc, c'est sans doute un calcul là, des autorités qui perdraient beaucoup d'argent. Mais moi, je pense que là, ce serait peut-être plus juste. Je sais qu'il y avait eu aussi une réflexion parce qu'il y a un père, sauf erreur, qui est allé très loin dans la démarche et on lui avait répondu que c'était si on acceptait justement qu'il soit défiscalisé sur ce montant-là, ce serait une inégalité par rapport aux parents qui sont mariés et qui, eux aussi, ont des enfants adultes à charge. Donc voilà, c'était ça l'argument pour dire que ce n'est pas juste. Mais c'est vrai, et je pense que là, il y a sans doute un combat à mener de la part de la CROP et de ceux qui défendent les pères. Pourquoi pas avec nous ? Mais enfin, nous, on a d'autres combats à mener, je peux vous dire. Donc celui-là, je vous le laisse. Donc c'est vrai que là, je pense qu'il y a une injustice et qu'on devrait plus le mettre sur la table. Et encore une fois, ce n'est pas la mère alors qu'il doit être fiscalisée, puisque ce n'est plus elle qui, en principe, reçoit ses pensions, mais bien les enfants adultes les reçoivent. Donc je pense que là, on pourrait quand même trouver une voie qui serait satisfaisante pour tout le monde, mais peut-être pas pour les finances de la Confédération ou des cantons. Donc ça, c'est l'autre aspect. Il faut quand même dire que dans le canton de Neuchâtel, on a prévu une déduction pour personnes nécessiteuses dans le cas où le père paye des pensions. Donc le canton de Neuchâtel accepte que le père déduise, alors c'est pas grand-chose, 3 000 francs par année, je vous l'accorde, mais en tout cas, il y a au moins un geste dans ce sens-là où on peut faire une déduction. Et puis au niveau de l'impôt fédéral direct aussi, il y a une déduction possible qui est de 6 500 francs. Donc c'est pas énorme non plus, ça correspond pas du tout à ce qui est payé en général, je suis d'accord, mais néanmoins, c'est un geste. Mais là, alors vraiment, en l'occurrence, je pense qu'il y a un combat à mener, parce qu'effectivement, je pense que beaucoup de pères le vivent très mal, et c'est vrai qu'ils n'ont pas le choix et que, les enfants devenus adultes, il faut continuer à les entretenir s'ils font des études. J'aimerais aussi dire quand même que souvent, les pensions alimentaires ne sont pas adaptées à l'âge des enfants. Hein. Donc, il faut aussi dire que c'est vrai qu'à l'âge de 18 ans, eh bien, les enfants, enfin, les mères ne sont plus fiscalisées par rapport à ces pensions, mais quand un enfant arrive à 18 ans, il coûte beaucoup plus cher que quand il a 10 ans. Donc je voudrais quand même dire ça. Et souvent, ces pensions ne sont pas adaptées. Donc ça aussi, au moment des conventions de divorce, eh bien, il faudrait peut-être que les mères soient un tout petit peu plus, anticipent un tout petit peu et se disent que peut-être ce serait bien qu'au cours de la vie, il y ait peut-être une adaptation des pensions alimentaires pour les enfants. Mais quand on se divorce, si les enfants sont jeunes, on n'y pense pas. Et puis tout à coup, on se dit, oulala, mais ça va coûter beaucoup plus cher parce qu'un enfant qui quitte l'école obligatoire, eh bien, coûte beaucoup plus cher. Si en plus, il étudie ailleurs, ben, il faut quand même qu'on puisse financer sa vie. Et puis, c'est souvent... les pensions n'ont pas varié. Donc, c'est souvent, effectivement, assez compliqué. Mais je ne dis pas que c'est les pères qui doivent forcément payer plus parce qu'ils ont aussi, évidemment, aussi un peu étranglé. Après, il y a quand même des bourses qui peuvent entrer en ligne de compte. Mais enfin, néanmoins, c'est un vrai problème. Et je pense qu'il y a tout à coup un hiatus, effectivement, avec les enfants majeurs. Je partage le constat.
Merci. Nous avons fait le tour des 5... questions avec 5 paires d'intervenants. Il est 7h05, nous avons 35 minutes pour des questions de l'auditoire. Donc, il y a un micro qui circule. Je ne sais pas où se trouve le micro. Voilà. Et puis, vous avez la possibilité maintenant de poser des questions à l'un ou l'autre des intervenants. Qui veut ouvrir les feux ? Oui, monsieur ?
Alors, bonsoir. Donc, je suis en train de divorcer. Donc, évidemment, je me réjouis de la nouvelle loi qui entre en vigueur au 1er juillet. Il y a une autorité, il y a une enquête sociale qui est en cours en ce moment. Et puis, la stratégie, entre guillemets, que je perçois chez ma femme, c'est qu'elle bloque tout. Elle ne veut pas de médiation, elle ne veut pas me parler. Et puis, en discutant avec les services psychiatriques qui font l'enquête sociale, ils me font comprendre que jusqu'à maintenant, ils ont toujours retiré, dans ces cas, l'autorité parentale au père, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Bon, la mère ne veut pas discuter avec le père, donc elle décide seule, et puis le père, il paye. Et puis, c'est ce qu'ils me disent. Donc, jusqu'à maintenant, on a fait comme ça. Puis maintenant, s'il ne veut pas discuter avec vous, ça va vous servir à quoi, l'autorité parentale? Alors, ma question, en fait, c'est... bon, les services sociaux n'ont aucune expérience avec cette nouvelle loi. Donc, on parle bien des situations conflictuelles où les deux parents n'arrivent pas à se mettre d'accord. Les tribunaux, ils ont une jurisprudence qui est ce qu'elle est. Alors, comment est-ce que cette nouvelle loi va être appliquée dans les cas où un des parents, en l'occurrence le parent gardien, il bloque tout et puis il en veut d'une façon émotionnelle à l'autre parent. Et puis, donc, dans mon cas, je ne reçois pas les carnets de devoirs, pas les carnets de résultats. Quand ils ont des maladies, je ne suis pas au courant, ni les vaccins, ni les traitements médicaux. Donc je suis mis au courant de rien. On est séparés pour l'instant. Donc j'ai l'autorité parentale de fait. Mais madame, ça lui est complètement égal. Elle bloque tout. Et puis j'ai l'impression que son avocate lui a dit « Mais madame, vous inquiétez pas, vous risquez rien, vous n'avez pas besoin de respecter la loi. De toute façon, vous êtes bien au-dessus de ça. Il peut vous arriver rien du tout. » Et la question que je me pose, c'est « Mais est-ce que son avocate lui a pas dit « Mais surtout, discutez pas avec lui, vous verrez, ça ira seulement mieux. »
Merci. Peut-être c'est une question pour Madame Burga.
Bien. Oui, alors je crois que la première chose, c'est au niveau de l'expérience des autorités ou des services de protection, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas d'expérience, puisque la solution qui prévaudra après le divorce est peut-être celle qui prévaut déjà en cas de séparation. Comme vous le dites, vous avez toujours l'autorité parentale, et après le divorce, ce sera la même chose. Les parents vivent séparés et ont l'autorité parentale conjointe. Donc on peut analyser ça. Maintenant, sur la deuxième partie, par rapport au refus du parent de collaborer, il y a un critère qui permet de discuter de la garde des enfants, c'est le critère de l'aptitude d'un parent à favoriser les contacts avec l'autre parent. Donc c'est un élément qui doit être pris en compte dans le cadre du bien-être des enfants. Si effectivement le bien-être des enfants est mis en danger parce qu'il n'y a pas ce contact qui est favorisé avec l'autre parent, le tribunal, et là je pense que la juge me rejoindra, va prendre des mesures pour favoriser ces contacts, favoriser les échanges entre parents. Et on arrive souvent, alors là, quand je suis avocat du tribunal, en disant lorsque les parents ne communiquent pas, ils arrivent au moins devant le tribunal avec une conciliation où le juge va essayer de dire « bon, alors on choisit un mode de communication ». Et donc on pousse à la conciliation pour dire on doit trouver des solutions. Et là, c'est vrai que c'est le père qui doit être demandeur par rapport à ses besoins et ne pas laisser, à mon avis, une situation se délaisser et puis perdre ce contact avec les parents. Parce qu'on va toujours attendre du père qu'il fasse tout son possible, que chaque semaine il demande des carnets, que chaque semaine il demande d'exercer le droit de visite pour voir qu'il a essayé. Effectivement, il y a un problème, il n'y a pas de contact. Et là, on va devant le juge et puis on essaie de trouver les solutions, soit ensemble, soit après par l'imposition d'une mesure ou d'une autre, comme le permet la loi.
Merci. Il me semble que votre question portait aussi sur la réalité de l'exercice de l'autorité parentale. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie lorsqu'on récupère l'autorité parentale? À quel moment est-ce qu'on peut la mettre en œuvre? Il me semble que le cas des carnets scolaires n'est pas exactement, ne fait pas intervenir l'autorité parentale. Même avec l'autorité parentale, vous n'auriez pas nécessairement le droit d'intervenir sur les carnets scolaires. L'autorité parentale, eh bien, elle porte sur des décisions peut-être plus importantes, plus fondamentales. Patrick Robinson.
Bon, il y avait ce problème récurrent il y a quelques années, mais on avait écrit à la chef du département de l'instruction publique, parce qu'il y a un article très clair dans le Code civil concernant justement l'échange d'informations. Et elle avait envoyé, c'était suite à une pétition, elle avait envoyé une lettre à tous les directeurs d'école en leur disant qu'il fallait, si le parent non gardien ou qui n'avaient pas l'autorité parentale voulaient obtenir les informations scolaires, ils devaient les donner. Donc sur ce point-là, c'est clair.
Oui, Madame Bohr.
Oui, j'aimerais ajouter qu'effectivement, le carnet scolaire, ça me paraît quand même être quelque chose qui en tout cas, les carnets trimestriels ou semestriels, ça paraît quand même être du ressort de l'autorité parentale. Ce qu'on avait, la conférence suisse des délégués à l'égalité, lorsqu'il y a eu la consultation sur l'autorité parentale conjointe automatique, on avait pris position pour, mais en demandant qu'il y ait quand même un certain nombre de cautèles, et je crois que ça a été retenu, c'est-à-dire qu'il y a quand même un certain nombre de choses où on ne peut pas avoir l'autorité parentale conjointe. Tout ce qui concerne en fait la vie courante, eh bien là, on ne peut pas demander à l'autre parent de toujours donner son avis s'il préfère que les enfants mangent du beurre de la Migros plutôt que de la COP. Je prends un exemple absurde, mais pour dire, c'est vraiment tout ce qui concerne la vie courante, il faut que l'enfant, enfin que le parent gardien, en général, en l'occurrence la mère, puisse quand même vivre avec les enfants sans avoir sans arrêt besoin de demander l'accord de l'autre. Mais il y a quand même un certain nombre de décisions, et elles sont listées, qui concernent justement l'autorité parentale, comme le lieu d'habitation, par exemple l'école, est-ce qu'il va à l'école privée, est-ce que pas, etc. Des histoires de religion aussi, de médecine, est-ce qu'on l'opère ou pas, etc. Ça, ce sont quand même des décisions importantes, et elles sont listées, donc c'est assez clairement défini, mais pas la vie courante. Sera conjointe. Je vous laisse répondre.
Non, alors, bien évidemment que non. Le principe, comme l'a dit Maître Burga tout à l'heure, le principe est donc l'autorité parentale. Il faudrait que vous fassiez quelque chose d'absolument incroyable et inadmissible pour que l'on vous retire la garde. Donc il va de soi que ça n'est pas l'autorité parentale, il va de soi que ça n'est pas votre ex-épouse ou épouse. Je n'ai pas compris si vous étiez en mesure protectrice ou en... Vous êtes à quel niveau de la procédure? Je n'ai pas compris. D'accord, mais vous ne bénéficiez pas d'une ordonnance de mesure protectrice encore? Il n'y a aucun régime juridique pour l'instant qui est applicable à votre situation.
La séparation, c'est une mesure protectrice.
D'accord, ok, une séparation juridique, ça pourrait être une séparation de fait sans que le juge ne soit prononcé. Mais le retrait de l'autorité parentale, si c'est votre épouse qui fait des pieds et des mains pour que vous ne voyez plus vos enfants, il est clair qu'on ne va pas vous retirer l'autorité parentale. Maintenant, si vous étiez extrêmement violent, qu'il y ait de l'abus sexuel comme on l'a parfois, etc., ça c'est une autre question. Naturellement. Mais si vous vous comportez normalement, il n'y a absolument aucun risque.
Oui, une autre question. Oui, monsieur.
Oui, bonjour. Peut-être une question à monsieur Neunschwender. Vous parliez avant de l'aspect psychologique que les pères qui sont... qui ont justement des problèmes par rapport à la femme ou la mère qui bloque, ou bien comme l'exemple de monsieur, qui se sentent que ça c'est cautionné par la justice. Alors ils sentent cette injustice. Moi je vois aussi l'aspect contraire, c'est plutôt une problématique que je veux soulever par rapport à la mère, en fait, parce que il existe justement le côté que la mère, elle est cautionnée par la loi, et que c'est la justice qui lui dit oui, vous avez le droit de faire ça, vous avez le droit de faire ça, alors que parfois c'est exagéré, parfois ils n'ont pas besoin d'autant d'argent, par exemple, etc. Et pour moi, cette problématique, elle fait en sorte que d'un coup, beaucoup de mères profitent énormément de la situation et qu'il y a un énorme déséquilibre, et qu'on n'a pas beaucoup parlé de la mère, en fait, du problématique que la mère, elle a justement cette position de force. Et puis aussi, par la suite, qu'est-ce qui pourrait se passer? Parce que je vois aussi la situation avec l'autorité parentale qui sera conjointe, que la mère, d'un coup, elle aura une situation qui est moins bonne qu'avant. Et ça fera en sorte que, d'un coup, elle pourra aussi se venger avec d'autres forces qu'elle a, justement le droit de garde, l'argent, si elle n'avait pas, par rapport à la loi, autant d'argent que les papiers pourraient lui dire. Et je voudrais savoir un peu votre avis là-dessus.
Oui, ce que je voulais dire avant, c'était, je parlais quand même un petit peu de cette notion de mère toute puissante, donc c'était quand même une sorte de caution, des fois, de la justice par rapport à des mères toutes puissantes. À mon avis, ça, je pense que ça existe, ça, effectivement, parce que la justice ne voit pas forcément ce qui se passe non plus, hein, et que ce lien très très fort et primitif entre l'enfant et la mère, on le vit tous en tant qu'être humain, et le juge et les avocats aussi. Donc forcément qu'à ce moment-là, on peut avoir une tendance peut-être plus facile à écouter peut-être la mère que le père, par exemple. Ça, c'est pas impossible. Ça devrait pas, mais j'avais une fois une personne qui me disait, alors une personne avec une certaine pathologie, je le dis tout de suite, hein, Il avait aussi des problèmes par rapport à ça. Mais il me disait, moi, je ne crois plus en la justice, parce que au tribunal, on applique les lois. Mais le juge, il ne prend plus position sur la situation, comme ça. Donc, je ne partage pas son opinion, hein, mais je trouve intéressant. Je trouve intéressant, parce que lui, il s'est senti très lésé dans une histoire un peu comme ça, justement. Et puis, je trouve intéressant de voir le ressenti que certaines personnes peuvent avoir par rapport à ça. Hein, où, de nouveau, cette fonction de tiers que la justice doit absolument représenter, à mon avis, parce que c'est le fondement même de la justice, des fois, elle le perd, je pense. Peut-être parce que voilà, les articles de loi ne sont pas bien étudiés, ou alors parce qu'on n'a pas le temps, ou parce que si, parce que ça. Mais à mon avis, c'est cette fonction tiercéisante qui doit absolument être présente tout le temps. Parce que les enfants, ils vont de toute façon en souffrir. Et par exemple, quand une mère ne veut pas vous donner les bulletins de scolaires de vos enfants, pour la justice, ça devrait tout de suite être un signal d'alarme. Qu'est-ce qui se passe là ? Parce que c'est complètement aberrant, ça. À moins que vous soyez un père complètement indigne, quoi. Mais autrement, c'est évident que vous avez droit, en tant que tiers dans la famille, à avoir les notes de vos enfants, puis à leur dire ce que vous en pensez, à ce niveau-là. Donc, tout de suite, là, ça devrait déjà être un signal d'alarme. Il y a quelque chose qui ne joue pas. Et ce n'est pas aux enfants d'en subir les conséquences de ça. Donc là, il faudra un curateur, il faudra un médiateur, il faudrait tiercéiser. Mais effectivement, je pense qu'il y a des situations qui sont assez inquiétantes des fois. Ouais.
Oui, mais peut-être Madame Dominique Berquer voulait répondre à ça.
Oui, on interpelle la justice tout azimut. D'abord, il faudrait que la justice soit au courant que votre femme ou ex-femme ne vous donne pas l'accès au carnet scolaire. Bon, j'observe que le Conseil fédéral, dans son message, s'agissant d'un certain nombre d'exceptions, si on veut, à l'exercice de l'autorité parentale conjointe, parle de l'habillement, de choses qui, effectivement, qui sont dans la vie courante. La signature du carnet hebdomadaire, ça, je ne pense pas que ça soit une chose qui ne soit pas courante. Donc, je ne pense pas qu'on puisse l'exiger. Après, le carnet scolaire qui est mensuel, qui est je dirais semestriel ou annuel, ça, effectivement, vous pouvez l'exiger. Mais est-ce que vous avez interpellé la justice sur ce point-là ? Ça, c'est la première question. Mais c'est ça le problème, c'est qu'on dit la justice ne fait rien, mais la justice fait quand elle sait. Et la justice, quand elle sait, elle agit, elle convoque les parties.
Est-ce qu'il va informer ceux qui font l'enquête sociale ? Est-ce qu'il va informer le juge ? Est-ce qu'il va informer mon avocat ?
Alors, vous pouvez interpeller le juge et lui dire, mais monsieur le juge, j'aimerais être au courant de ça, 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 ça. Et puis peut-être qu'il y aura deux choses qui devront être écartées parce que ça fait partie en fait de choses courantes qu'on ne peut pas vous soumettre, les baskets roses de votre fille, etc. On ne va pas vous soumettre ça. Mais le juge va regarder si ça fait partie de votre autorité parentale conjointe à partir du 1er juillet. On est d'accord, on n'a pas encore ce genre de cas si vous ne l'avez pas. Mais le juge doit être informé. Et très souvent, ce que je constate, c'est qu'il n'est pas. Et quand il l'est informé, c'est 3 ans après, et là, les dégâts sont tellement gigantesques qu'on n'arrive plus à récupérer. Si on est, dès le départ, informé de la situation, au tout début de la séparation, et que les avocats nous aident à trouver une solution, la plupart du temps, la situation ne s'envenime pas.
Vous parlez de la juge qui a prononcé la séparation, ou de la juge qui essaie de trouver comment on va divorcer ? Parce que là, en 2 ans, j'ai eu une audience. Alors,
je ne peux pas répondre pour l'ensemble des... Non, vous avez un dossier qui est, j'imagine, ce qu'on appelle pendant devant un tribunal. Donc un dossier ouvert.
Pour le divorce.
Pour le divorce, je ne sais pas, vous avez déposé une demande, je ne sais pas où vous en êtes. D'accord. Alors, s'il y a des problèmes en cours de procédure et que ces problèmes vous semblent à vous, monsieur Urgent, vous les soumettez à la justice. Et la justice a le devoir de se prononcer. Si elle ne se prononce pas, elle commet un déni de justice. Donc j'ai un petit peu surprise que...
Le tribunal qui essaie d'envisager comment on peut divorcer est compétent pour régler une situation dans le cadre de la séparation.
Mais là, j'essaie de voir au niveau de la procédure. Je pense que vous avez une ordonnance de mesure protectrice et vous avez déposé à un moment ou à un autre une demande en divorce. Et là, vous êtes à l'échange des écritures, ça dure, il y a des délais, etc. C'est un peu ça. Et puis, pendant ce temps, le juge est un petit peu ennuyé, il voit qu'il y a un problème, il demande une enquête sociale. D'accord. Et puis, il y a un problème qui surgit, qui est du ressort du juge et de la compétence du juge. Le juge peut agir. En mesure protectrice, il peut agir. Même s'il y a une... Mais ça sera, en principe, c'est le même juge. Vous ne pouvez pas me dire que c'est deux tribunaux différents.
Je crois que Mme Bourg veut intervenir.
Je ne voudrais pas qu'on entre trop dans le détail, mais je crois que vous êtes en phase de transition, c'est ça le problème. Quand vous aurez vraiment, le divorce sera prononcé, il sera beaucoup plus clair. Et je voulais juste vous rassurer, si vos enfants sont dans le canton de Neuchâtel, en tout cas, il y a, au début de l'année, ils doivent mentionner qui a l'autorité parentale. Et si elle est conjointe, c'est mentionné sur une feuille officielle. D'ailleurs, les écoles demandent toujours aux enfants, ce qui les traumatise, certains, de le rendre le 2 jours après, puis ils disent oui, mais je vois mon père le week-end, donc c'est toujours un peu là, l'école n'a pas toujours très bien compris ce qui se passe. Mais enfin, c'est pas grave. En tout cas, c'est mentionné que vous avez l'autorité parentale conjointe. Donc, quand vous aurez les carnets semestriels, vous devez le signer. Donc ça, il y a aucun, vous pouvez pas y échapper. L'école ne reconnaît. Alors je sais pas comment c'est dans le canton de Berne, mais ça m'étonnerait que ce soit différent. Je pense que c'est quand même entériné sur le fait que vous devez signer les carnets de vos enfants, et si ça n'est pas signé, l'école va intervenir et va dire pourquoi ce carnet n'est pas signé par l'autre parent.
Oui, madame voulait poser une question.
Bonsoir. Moi, j'avais juste une question par rapport au calcul des pensions. Comme vous avez dit tout à l'heure, à partir de la majorité, normalement, ça devient plus cher. Et comment ?
Pas forcément.
Pas forcément, mais si les enfants sont en études, vous avez. Dans la situation où le père se dit que l'enfant est majeur et qu'il ne décide de ne plus payer sa pension, par exemple, qui est-ce qui doit intervenir si la mère elle ne veut plus entrer en conflit, et puis c'est un peu délicat pour l'enfant d'entrer en conflit avec son père et aussi. Donc, comment ça se passe dans ce cas ?
Alors, sur cette partie de la question, je laisserai répondre la justice, parce que c'est vraiment une question après de justice. Mais ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que justement, si le divorce intervient, la convention de divorce est établie au moment où les enfants sont jeunes, eh bien, souvent, on ne prévoit pas une progression. Parfois, c'est prévu, mais pas toujours. Et puis, c'est souvent une faible progression. Donc, c'est vrai que tout à coup, une mère peut avoir, je sais pas, elle se divorce, un enfant à 7 ans, et puis elle calcule plus ou moins ce que coûtera l'enfant, et on ne corrige pas ça au fil de la vie. Et effectivement, un enfant qui devient majeur et qui étudie coûte beaucoup plus cher qu'un enfant de 7 ans. Donc c'est ça le problème. Donc peut-être que ça, c'est aussi aux juges ou aux avocats, en tout cas, de rendre attentif à ça, au fait qu'il faudrait quand même adapter les pensions à l'évolution de la vie de l'enfant. D'ailleurs, juste en passant, dans la fiscalité, dans la réforme fiscale des personnes physiques, on a prévu qu'on déduisait maintenant dans la nouvelle, donc c'est pas encore en vigueur, mais ça va être appliqué petit à petit. On a prévu que, justement, on a fait en fonction de l'âge des enfants. Parce qu'on sait qu'un enfant, un petit enfant, alors il y a la crèche, mais qu'on peut déjà déduire. Et puis, un petit enfant coûte moins cher qu'un grand. Donc, ça va vraiment être en fonction de l'âge des enfants. Donc, c'est dans la même logique qu'on devrait prévoir les pensions en fonction de l'âge. Et puis, sur qui doit intervenir ? Je vais laisser répondre la justice, parce que c'est vous, de nouveau, qui devez intervenir.
Merci. J'ai juste une petite précision sur ce qui vient d'être dit. Il est vrai que la justice souvent ne prévoit pas de palier, les avocats ne manquent pas de nous soumettre des conventions avec des paliers. Donc en général, c'est 6, 12, 12, 18, et puis on a bien pensé à la question. Maintenant, c'est l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, et je le glisse en passant puisque je devais le faire. À Neuchâtel, nous avons une organisation qui, on est soit juge matrimonial, enfin il n'y a plus formellement de juge matrimonial, on est soit juge civil et on s'occupe des mesures protectrices et des procédures de divorce, ou alors on est juge à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. Et dans le cas d'enfants majeurs, si le père du jour au lendemain décide de ne plus verser la pension alors que l'enfant, par hypothèse, est à l'université par exemple, on devra saisir l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, qui fera la même chose, convoquera le père et verra de quelle manière une solution peut être trouvée entre les parties. Mais évidemment, le père a toujours une obligation d'entretien, il a toujours l'obligation de verser une pension quand l'enfant est en études, pour autant qu'il n'y reste pas trop longtemps, naturellement.
Oui, mais j'aimerais juste intervenir ici. La situation des enfants change. La situation de la mère aussi change, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'au cours des années, elle peut changer de statut économique, elle peut retrouver du travail, développer. Est-ce que la mère qui a bénéficié de contributions d'entretien pendant l'adolescence, par exemple, des enfants, et qui se retrouvent ensuite libérés de toute charge d'enfant lorsque les enfants deviennent majeurs, doit aussi, en principe, contribuer à l'entretien des enfants majeurs après donc, l'âge de 18 ans.
Oui, dans le sens où le législateur a prévu que l'un des parents, en principe, contribue en matière de soins et d'éducation, et l'autre parent va contribuer par le biais de contributions d'entretien. Donc, quand l'enfant devient majeur, s'il est encore au domicile de l'un de ses parents, il y a cette contribution en nature, entre guillemets, qui est prise en compte. Et donc, le parent qui ne vit à nouveau pas avec l'enfant, même majeur, c'est lui qui va, en principe, verser une contribution d'entretien. Et ce que je voulais peut-être encore préciser pour madame, c'est qu'effectivement, lorsqu'elle devient majeure, elle n'a pas le choix, c'est elle-même qui est titulaire du droit et qui doit agir en justice contre le parent. Malheureusement, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a que elle. Alors, par le biais d'un avocat et peut-être au bénéfice de l'assistance judiciaire, mais c'est elle seule qui peut le faire.
Oui, mais je me réfère donc au cas des étudiants qui partent, donc qui quittent le domicile du parent gardien. Et là, on se retrouve dans une situation où le parent gardien n'est plus gardien et est, disons, débarrassé de toute tâche en nature ou en espèce.
Tout à fait. Dans ce cas, les deux parents ont une obligation d'entretien à l'égard de l'enfant. Et bien sûr, la contribution va dépendre des capacités financières de chacun des parents et du besoin de l'enfant.
Merci. D'autres questions ? Oui, monsieur.
Oui, je voulais revenir sur des formulations qu'il y a eu quant au droit de visite du parent non gardien. J'ai noté que c'était un reflet de ce qui se passait en fait dans la vie conjugale, enfin avant la séparation. On a aussi eu les statistiques sur les 100% de travail pour le père et beaucoup moins pour la mère. Je voulais poser la question, c'était comment pourrait-on encourager ? Parce que, bien sûr, le père qui travaille à 100% en famille, il voit ses enfants vraiment régulièrement, souvent le matin, le soir, le week-end. Et la séparation, elle est dure pour tout le monde. Le père, voilà, il travaille à 100% toujours, mais il se rend compte qu'il y a quelque chose qui disparaît. Et il pense à un droit de visite le plus large possible. Et j'ai souvent entendu j'ai même lu cette formulation. Et bon, voilà, Madame Mordizet, voilà, on ne peut pas du jour au lendemain peut-être, enfin, je ne peux pas le formuler, l'interpréter comme ça, mais diminuer, alors voilà, vous étiez à 100%, voilà, vous êtes divorcé, maintenant vous voulez passer à 80%, enfin, je pense qu'on devrait essayer d'encourager ça, ce large droit de visite, et pas forcément une réduction du temps de travail, mais un aménagement du temps de travail. Je pense particulièrement au mercredi après-midi, au mercredi soir, qui sont des moments vraiment importants, tant pour les enfants que pour tout le monde. Et je dis ça parce que je crois que beaucoup de pères prennent conscience à ce moment-là qu'ils sont plus importants qu'ils le pensaient peut-être avant. Donc comment encourager ce large droit de visite et éventuellement les efforts de pères qui aimeraient aménager leur temps de travail ?
Patrick Robinson.
Bon, il y a d'abord une chose... concernant les heures passées par les parents respectifs avec les enfants avant la séparation et le divorce, la situation a quand même dramatiquement changé ces 10-15 dernières années, si on regarde les chiffres de l'Office fédéral des statistiques. Et en fait, les papas encore en couple passent... plus que un tiers, voire 40% des tâches parentales sont effectuées par les papas en couple. Certes, du côté des tâches domestiques, laver, etc., le pourcentage est quand même, la répartition est moindre. Mais si on regarde les chiffres, c'est quand même entre 29 et 32 heures par semaine qui sont... effectué par les pères en couple envers le travail domestique et familial, ajouté aux 100% de travail. Et si on regarde les heures totales, en fait, les pères, les hommes travaillent domestique plus professionnel, travaillent plus moyenne sur la Suisse que les femmes. Maintenant, si c'est 20 heures passées avec les enfants avant qu'on soit divorcé, comme vous le dites, je pense, tout à fait correctement. Si on oublie le papa, parlons de l'intérêt supérieur et du bien-être de l'enfant. L'enfant a, chaque soir, eu des contacts réguliers avec aussi son papa. Alors, de venir dire, mais lors de la séparation et du divorce, il faut faire comme avant, ben, si on fait comme avant, du point de vue de l'enfant, c'est que justement, il devrait y avoir plus de... Ce ne serait pas un week-end sur deux pour papa, mais justement, plus de contact entre les enfants et leur papa que le minimum. Et d'où je venais à la garde partagée. Et maintenant, j'en viens à conciliation famille-travail. Avec justement une garde alternée, je ne dis pas 50-50, hein, mais ça permettrait, et en voyant les changements sociaux, les changements comportementaux parmi les jeunes, du point de vue de... des aspirations professionnelles, etc. Je pense que justement, s'il y avait beaucoup plus de possibilités de garde et que c'était encouragé, cette garde partagée, je pense qu'il y aurait moins de conflits parce que ça ne deviendrait plus... Ce serait, au lieu de l'autorité parentale conjointe par défaut, allons vers une garde alternée par défaut. Et maintenant, concernant le bien-être des enfants... j'annonce qu'il y a 3 semaines, un centre international d'études sur la garde partagée a été établi après des années de travail en Allemagne, et que, parce qu'il y a eu beaucoup de recherches ces derniers 15-20 ans, qui démontrent justement l'importance de non seulement pouvoir parler à l'autre parent non gardien, mais un contact régulier avec l'autre. Et surtout pour les petits... Alors qu'ici en Suisse, quand on lit les documents du Conseil fédéral, jusqu'à l'âge de 6-7 ans, pas de gaffe, c'est vraiment très très archaïque comme, comme pensée. Voilà.
Attends, je vais juste... Moi j'aimerais juste compléter quand même, c'est vrai qu'il faudrait, alors pourquoi pas aller vers une garde alternée, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pères qui le demandent aujourd'hui, hein. Il n'y a pas énorme, c'est en tout cas pas massivement le cas, donc ça c'est, mais ça peut être effectivement une solution, pourquoi pas, et je pense y compris pour la mère, parce que ça la libère quand même la moitié du temps, donc elle peut aussi peut-être travailler davantage, et puis elle peut aussi avoir une vie peut-être un petit peu moins dépendante des enfants. Donc ça c'est une première chose. Maintenant, il faut, je me méfie moi de la notion du bien de l'enfant, je suis très sceptique sur cette notion, parce qu'au nom du bien de l'enfant, on a fait des horreurs, et puis souvent, le bien de l'enfant, c'est justement la présence de la mère. Hein. Alors, si on prend quand même notre culture, c'est, si vous avez entendu tous les débats qu'il y a sur, l'instauration de systèmes d'accueil des enfants, vous allez toujours avoir une frange de la population qui va vous dire que le bien de l'enfant, c'est d'être avec sa mère. Donc ça, moi, je me méfie vraiment, c'est souvent au détriment des mères qu'on parle du bien de l'enfant. Donc là, en l'occurrence, pas, mais cette notion, je pense qu'il faut vraiment faire attention. On a aussi enlevé des enfants à leurs parents pour les placer. On sait, on connaît tous ces scandales dont on parle pas mal ces derniers temps. C'était aussi au nom du bien de l'enfant qu'on a séparé les enfants de leurs parents. Donc je pense qu'il faut faire attention avec ça. Mais c'est vrai, je pense, et je reviens de nouveau à ma première insertion, c'est que je pense qu'il faut qu'on ait un autre regard sur la famille, et moi je me bats pour ça. Je pense qu'il faut qu'on ait un autre regard sur le rôle des pères et des mères dans la société. Et moi, je vais vous dire une chose très provocante, c'est que moi, je pense qu'on doit enseigner à nos enfants, à nos adolescents, j'en ai 3, on doit leur enseigner, garçons et filles, que le divorce, c'est la norme. Je suis désolée de dire ça, mais il faut leur dire ça. Il faut leur dire, le divorce, ça va être la norme, ça va vous arriver. Donc, les filles, investissez dans votre vie professionnelle, s'il vous plaît. Ne soyez pas dépendantes économiquement de quelqu'un d'autre, soyez autonomes. Et puis, les garçons, faites attention, parce que si vous avez une personne qui va dépendre complètement de vous économiquement, vous serez coincé. Tout le monde va être piégé. Et si vous êtes marié, il ne se passera rien. Si vous restez marié, tout va continuer comme avant, il n'y a pas de problème. Donc c'est ça qu'on doit aussi changer comme regard. On doit arrêter de penser que maintenant plus de la moitié des mariages finissent par un divorce. Donc il faut considérer maintenant autrement ces aspects-là et il faut le préparer. Il faut que les jeunes gens qui se mettent en ménage et qui fondent une famille soient au courant de ça et réfléchissent dans la répartition et qu'il y ait une négociation dans le couple. Parce qu'on ne peut pas l'avoir au moment du divorce si on ne l'a pas eu avant. Et je pense que là, il y a un rôle que les filles doivent jouer, les femmes doivent jouer. Il y a un rôle aussi que les pères doivent jouer dans la négociation et d'accepter aussi que c'est, parce que c'est aussi, je vais vous dire, c'est aussi très confortable pour un homme de caracoler dans sa carrière, de faire tout bien et puis d'avoir juste les enfants le soir et n'avoir aucune des tâches ménagères, aucune de vraiment toutes ces tâches qui font que les femmes ne sont pas libres de faire ce qu'elles veulent. Donc c'est aussi très confortable. Et il y a aussi beaucoup d'hommes qui se conforment dans ce modèle-là parce que c'est plus simple et parce que c'est le modèle traditionnel et que rien dans la société ne leur dit finalement, enfin si, on leur dit quand même maintenant aujourd'hui, mais rien jusqu'à aujourd'hui ne leur dit que c'est pas comme ça que ça doit se faire.
Oui, je rejoins tout à fait ce qui a été dit et ce qui me permet d'ajouter une chose, c'est que les décisions, elles se prennent au moment de la naissance des enfants. Elles ne se prennent pas au moment du divorce. Et c'est là le problème. Et c'est vrai qu'on n'a pas la société qui instaure des mesures favorables. Le calcul à la naissance des enfants, c'est le salaire de madame. Il va contribuer à payer les impôts et puis il va contribuer à payer les structures d'accueil. C'est ça le problème. Mais si on réfléchit juste, c'est qu'on devrait œuvrer ensemble à améliorer cette situation. Pensez que le dernier rapport sur le congé parental a mis en évidence le fait qu'instaurer un congé paternité d'un mois coûterait 0,1% des cotisations sociales, 385 millions. On se rappelle que la Confédération a fait le bénéfice 1,2 milliard les dernières années. Donc il n'y a pas de volonté, mais c'est là, au début, à la naissance, si on instaure un partage des tâches, que tout le monde s'en sortira mieux au divorce, les pères et les mères sur le marché du travail et les pères avec leurs enfants.
Merci, monsieur.
Oui, moi j'ai une question au sujet des pensions alimentaires pour des enfants issus de deux mariages. Parce que là, ça c'est une question, parce que les enfants du premier mariage ont eu une pension pour eux qui était calculée de manière assez large. Maintenant, avec le divorce, pour les enfants issus du deuxième mariage, est-ce qu'il y aurait une équité de traitement entre les enfants des premiers et du deuxième mariage? Et si oui, que faire pour faire réviser les pensions, si c'est possible?
Alors, c'est une question.
Oui, oui. Effectivement, il y a une présomption d'égalité de traitement entre les enfants du même débit rentier, du même débiteur. Donc oui, la question du divorce, du deuxième divorce, c'est un fait nouveau important qui justifie un recalcul des pensions du premier divorce avec ce principe qui est prévu par la jurisprudence d'égalité entre les enfants. Donc oui.
Je prends une dernière question. Oui, madame.
Merci. Moi, je voulais juste. J'avais une question concernant le non-respect du droit de visite. Ce serait plutôt qui s'adresse à Madame Becker. En fait, vous avez dit que vous aviez un arsenal juridique assez limité pour faire respecter le droit de visite quand il y avait manifestement une mauvaise volonté de la part du parent, je ne sais plus comment on appelle ça, enfin, souvent de la mère, et qu'après des convocations, etc., ça ne marchait toujours pas. Et que les rares moyens que vous aviez, par exemple une médiation ou bien l'intervention de la police, ou voir la menace d'un retrait de la garde, étaient utilisés très 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 rarement. Et en fait, après ce qu'on a entendu de la part de M. Neuenschwander, j'ai l'impression que c'est avéré, d'un point de vue psychologique, qu'une situation où un enfant ne voit plus du tout son père et en fusion totale avec sa mère est très très dommageable pour son évolution psychique, d'après ce que j'ai compris. Alors pourquoi est-ce que les tribunaux rechignent à... Enfin, je ne sais pas si les tribunaux rechignent à utiliser les moyens qu'ils ont ou est-ce que ces moyens ne sont pas du tout développés, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un changement dans ce sens-là, en fait ?
Peut-être me suis-je mal exprimée. En fait, ce que je voulais dire, c'est que, d'après moi, on n'a pas un arsenal juridique efficace si nous sommes véritablement en face de parents récalcitrants. Vraiment des parents avec lesquels on peut déployer une énergie invraisemblable, que ce soit en rendant des jugements, que ce soit en les convoquant, etc. Et on n'y arrive toujours pas. Et à un moment donné, ce n'est pas comme une procédure de poursuite où vous me devez 100 000 francs, je vais bien y arriver. Je fais des procédures, au bout du compte, votre salaire sera saisi, ou bien votre maison, ou quoi que ce soit d'autre. Là, c'est facile. Les procédures, on les fait. Là, on a un enfant et au centre de tout cela, et nous prenons en compte cet intérêt-là. Et que fait-on si, après avoir épuisé toutes les possibilités, que ce soit des possibilités au niveau des assistants sociaux, que ce soit au niveau des psychologues, parce qu'on peut imposer aussi aux parties d'aller voir un psychologue ou un psychiatre, après avoir tout épuisé, on n'y arrive pas. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a une solution, c'est le retrait de la garde. Mais celle-là devrait être vraiment suppose des conditions extrêmement restrictives et le tribunal fédéral ne nous permet pas de le faire dans n'importe quel cas. Et pour ma part, j'en ai jamais vu. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc on a des possibilités, mais il y a quand même des cas qui sont extrêmement lourds à gérer et on doit quand même admettre qu'il y a une certaine impuissance de la justice pour ces cas-là, malheureusement.
Oui. Alors, nous arrivons à la fin. Je vais encore passer la parole à chacun des intervenants pour le mot de la fin. N'est-ce pas ? Vous pouvez choisir sur le sujet sur lequel vous voulez vous exprimer, la dernière question, les questions d'avant, une question qui a été ignorée. Donc je vais commencer peut-être par Patrick Robinson, qui vient de lever la main, et puis je passerai la parole à tour de rôle à chacun des intervenants, mais en limitant peut-être votre propos à 30 secondes, à une minute.
Bon. L'avenir, essayons d'être positifs. La médiation a été mentionnée, avec de très bons résultats, comme vous l'avez dit, en Allemagne. C'est le cas en Allemagne, dans plusieurs pays scandinaves, Belgique, Canada, où il y a presque de la médiation ordonnée. En Suisse, il n'y a qu'un arrêt du tribunal fédéral qui l'a jusqu'à présent accepté. Quels avantages, là ? Et comment est-ce que le juge ou la juge l'impose ? C'est lié à toute cette question de la capacité respective des parents de collaborer avec l'autre parent dans l'intérêt de l'enfant. Je suis émerveillé par tous les articles de loi qui ont l'intention de protéger l'enfant. Vous avez... personne juridique mentionnée, on peut faire ça, on peut éventuellement faire ça. Mais on a aussi entendu le désespoir qu'il y a que face à des situations de blocage, on ne peut presque rien faire. Et on continue d'essayer d'avoir de l'espoir. Et quand finalement, 4-5 ans plus tard, on dit « Ah ouais, mais si on avait su, ben maintenant c'est peut-être le moment de retirer la garde ». Agissons beaucoup plus vite. On ne peut pas attendre quand ça concerne l'intérêt supérieur de petits-enfants. Faisons comme en Allemagne. Les juges disent, c'est la médiation ordonnée, je ne veux pas discuter. Au Canada, le parent qui ne collabore pas avec l'autre se verra retirer la garde. Soyons sévères dès le début pour avoir des mesures dissuasives qui, pour finir, à mon sens, réduiront les conflits. Merci.
Merci. Monsieur Neuenschwander, vous voulez répondre ?
Oui, alors j'entends bien ce que vous dites. Je suis très d'accord avec ça. L'enfant n'est pas partageable. On peut partager les dépenses, on peut partager les moments de présence ou d'absence, le travail professionnel plus ou moins, mais l'enfant lui-même n'est pas partageable. Et c'est justement s'il est partagé qu'il va devenir malade. L'enfant, il a besoin d'avoir sa mère et son père. Probablement pas au même niveau, hein, de nouveau, parce qu'il y a une différenciation du père et de la mère, bien entendu. Mais je dirais que dès qu'il y a question, par exemple, si on reprend l'histoire des finances, comme ça, dès qu'il y a la question combien l'autre il devra payer et puis l'autre il ne veut pas, par exemple, on peut tout de suite se poser la question de la médiation. Parce que normalement, voilà, on peut ne plus s'entendre et se divorcer, mais c'est évident que les deux doivent contribuer au bien-être de leur enfant et devront évidemment bien... dépenser de l'argent pour lui. Donc, s'il y en a un qui se sent lésé par rapport à l'autre, c'est forcément encore une vieille histoire de couple qui n'est pas réglée. Mais l'enfant, il n'a rien à voir là-dedans. Donc, dès qu'il y a un quelconque problème, je dirais, par rapport à l'enfant, de le voir ou de ne pas le voir, de payer plus ou moins, on devrait automatiquement mettre une médiation, je pense.
Merci beaucoup, Nicole Bohr.
Oui, moi j'aimerais juste dire que, en fait, il faudrait pas dans ce débat comme dans l'autre, d'ailleurs, sur les salaires ou je ne sais quoi, faire une guerre des sexes, parce que je pense qu'on a tout intérêt dans la société à aller vers une égalité entre hommes et femmes, et l'inégalité qui existe au moment du mariage, pendant le mariage au détriment des femmes, eh bien, se répercute et est exactement le regard qu'on va retrouver après, une inégalité qui va en fait être en défaveur des hommes sur la question familiale, hein, strictement. Sur l'économie, c'est autre chose. Mais donc, c'est vraiment, j'espère juste qu'on peut simplement tous aller ensemble vers plus d'égalité, et je pense que plus d'égalité amènera beaucoup moins de drames au moment du divorce pour les pères. Et j'espère qu'on vous a convaincu, en tout cas ce soir, que c'est dans ce sens-là qu'il faut y aller et qu'on doit tous y aller, pas que les femmes, que ce ne sont pas qu'aux femmes de revendiquer cette égalité, mais aussi aux hommes. Et puis, comme ça, on se portera mieux, parce qu'il faut aussi dire, et ça rejoindra ce qui vient d'être dit, on ne divorce pas de l'autre parent. On peut divorcer d'un homme ou d'une femme, mais on ne divorce pas de l'autre parent. Nos enfants ont un père ou une mère, et une mère en général, et donc ils ont les deux, et ils resteront avec les deux parents, quelle que soit la situation du couple, et le couple ne regarde pas ce qui se passe dans le couple, ne devrait pas regarder les enfants.
Merci. Madame Dominique Becker.
J'ai entendu beaucoup de déceptions sur la justice ce soir. Fort heureusement, nous finissons par quelques points positifs. Je crois véritablement que si les parents, avant même la justice, mais les parents se souciaient d'abord de l'intérêt de leur enfant, sans penser à leur intérêt propre, parce que nous avons entendu ce soir certaines personnes parler de leur intérêt, l'intérêt du père, l'intérêt de la mère. Si on oubliait une fois cet intérêt-là ou ces intérêts-là pour uniquement parler de l'intérêt de l'enfant, eh bien, je suis sûre que dans les esprits, nous arriverons à aller vers la solution qui est proposée finalement par M. Robinson de la garde alternée, qui devient de plus en plus la règle. Alors, ça reste marginal, mais on n'en voyait pas il y a un certain nombre d'années. Et le Conseil fédéral n'a effectivement pas voulu de cette solution, mais elle est mise sur pied assez régulièrement en audience, ou alors en droit de visite élargi, où les pères peuvent voir leur enfant davantage. Donc je crois vraiment que c'est un changement d'état d'esprit qui doit se faire. On ne pense plus à soi ou à l'autre parent, mais on pense à l'enfant et au bien de cet enfant. Et ce bien, effectivement, se trouve, comme l'a dit M. Neuenschwander, dans les relations personnelles qu'il doit développer avec ses deux parents.
Merci, Madame Burga.
Oui, moi je pense que la loi finalement, elle ne va pas favoriser la femme ou l'homme, et en particulier avec la modification du code civil bienvenu, il y aura une meilleure égalité. Finalement, la loi, elle est là pour fixer des critères objectifs dans le cadre d'un problème que le juge doit trancher. Et finalement, si on arrive à améliorer la répartition des tâches au moment du mariage, la répartition, l'égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail, eh bien, on pourra utiliser ces critères de manière efficiente ensuite dans les cas du divorce.
Merci beaucoup. Lorsque j'ai invité les intervenants à participer à ce café scientifique, une personne a dit « Ouh là là, ça va être houleux ». Eh bien, ça n'a pas été houleux. Je vous remercie de la qualité de vos interventions, de la qualité de vos questions et de l'atmosphère générale qui a présidé pendant cette soirée. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Juste encore un petit mot, merci au professeur Jean-Jacques Aubert d'avoir assuré la modération et l'organisation parfaite de ce café scientifique. Je voudrais juste vous donner rendez-vous pour la prochaine discussion qui aura lieu le 30 avril, ici même, et on parlera de toute autre chose. Il sera question des ressources de nos forêts, faire monnaie de tout bois. Voilà, donc dans un mois, le 30 avril... On vous donne rendez-vous ici. Merci beaucoup de votre fidélité. Bonne soirée.